La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
L'or et l'argent sont des métaux précieux très utilisés dans les relations commerciales, les trocs, pour faire des placements. Les gens achètent des lingots d'or avec l'idée que si la monnaie se dévalue, l'or au moins gardera sa valeur. La recherche de l'or sur la Terre a conduit à des exploitations parfois dramatiques d'êtres humains défavorisés. Elle a aussi conduit à des guerres, des tueries. On sait maintenant que la plupart des atomes d'or présents sur la planète, ainsi que ceux d'argent et de platine, ont été formés dans l'univers il y a de nombreux milliards d'années dans des collisions d'étoiles extrêmement denses appelées étoiles à neutrons. Cette découverte amplifie le caractère précieux de ces éléments. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la formation de ces éléments dont nous allons parler, mais de leur couleur. Pourquoi l'or est-il jaune et l'argent est-il gris? On ne se pose pas souvent cette question, tellement on y est habitué. Mais ce n'est pas si évident que ça, comme va nous l'expliquer mon invité d'aujourd'hui, Tran Saue. Bonjour Tran.
Bonjour.
Tran Saue, norvégien. Il a fait ses études à l'université d'Oslo et il est installé en France, à Toulouse, depuis 25 ans. Il est directeur de recherche au laboratoire de chimie et physique quantique à l'université de Toulouse. Il fait des recherches sur le fonctionnement des atomes et des molécules qui sont très complexes, de très haut niveau, qui introduisent à la fois la physique quantique et la théorie de la relativité. Rassurez-vous, nous n'allons pas du tout vous entraîner dans ces recherches compliquées. En revanche, Tran va nous expliquer qu'il n'était pas du tout évident a priori que l'or soit jaune et que les recherches qu'il mène dans son laboratoire permettent depuis peu de comprendre comment et pourquoi les atomes ont la couleur qui les caractérise. Tran, il faut peut-être d'abord rappeler aux éditeurs ce qu'est un atome, en particulier un atome lourd, comment il fonctionne, et ensuite expliquer comment les atomes réfléchissent la lumière ou la renvoient de telle sorte qu'il donne l'impression d'avoir une couleur particulière, l'or par exemple.
Je pense que ça peut être intéressant de noter qu'à la fin du 19e siècle, le grand physicien Michelson il a dit que la physique était finie. Était
si ah mal. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que Michelson. C'était vraiment l'idée des scientifiques à la fin du 19e siècle, on sait tout.
Voilà, et après, en 20e siècle, on a eu la mécanique quantique et on a eu la théorie de la relativité. Et les deux grandes théories jouent un rôle pour expliquer la couleur de l'or. Mais on va peut-être commencer donc avec qu'est-ce que c'est un atome. Et un atome, c'est donc une collection d'électrons et un noyau avec une certaine charge. Et un atome neutre a le même nombre d'électrons que la charge nucléaire, qui est un chiffre entier. Donc dans l'hydrogène, on a une seule charge et un seul électron. Ensuite, au début du XXe siècle, on a beaucoup étudié la structure des atomes. Une chose qu'on a découvert, c'est qu'il faut plutôt imaginer une espèce de nuage d'électrons autour de cet noyau avec une charge positive. En mécanique quantique, pour comprendre le mouvement d'électrons, on a une fonction mathématique de laquelle on peut extraire la probabilité d'une certaine position de l'électron autour du noyau. Mais cette fonction d'onde est associée à une énergie bien spécifique. Et donc, le mot quantique dans mécanique quantique, ça veut justement dire que l'énergie n'est pas une variable continue, mais c'est des sauts quantiques entre des niveaux d'énergie. Et dans un atome, un électron peut absorber un photon, donc une petite particule de lumière, et sauter entre deux niveaux d'énergie. Ensuite, l'électron peut aussi éjecter un photon et descendre d'un niveau d'énergie.
Ce sont des énergies qui correspondent pour les photons, pour la lumière, à des couleurs spéciales, justement.
Chaque atome a son empreinte digitale, une espèce d'empreinte chaque atome n'absorbe que certaines couleurs ou certaines énergies.
L'or, c'est un atome lourd. Il a combien d'électrons, l'or, autour de son noyau?
Donc l'or a 79 électrons.
Avec tous ces électrons donc, qui tournent autour du noyau de l'or, ça doit être difficile de faire tous ces calculs pour savoir quels sont les photons qui sont absorbés par l'or et pour avoir une idée de la couleur. Donc comment ça se passe tout ça? Comment ça se passe tous ces calculs?
Ben, il faut savoir que donc, dans l'or, on a 79 électrons. Pour qu'un électron dans une couche intérieure absorbe un photon, il faut beaucoup d'énergie. Donc on n'est plus dans le visible, on est dans le rayon X. Donc c'est que les électrons vers l'extérieur qui absorbent dans le visible. Il faut savoir que les calculs sont extrêmement complexes. En mécanique quantique, il y a deux types d'électrons orbitales qui entrent en jeu. C'est le type S, c'est notamment l'orbital qu'on appelle 6S, et l'orbital 5D. Donc la couleur de l'or est dans un atome liée à la transition entre ces deux niveaux.
D'accord. Mmh. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu envoies de la lumière sur l'atome d'or, tu peux avoir un photon correspondant très précisément à l'énergie, la différence d'énergie entre ces deux niveaux dont tu viens de parler, qui est absorbé. Et la couleur, c'est parce qu'on voit tout sauf ce qui est absorbé ou
exactement. Si un atome absorbe dans le visible, ce qu'on voit, c'est ce qui reste. Donc, ça va être la couleur
par
complémentaire.
Par exemple, si la couleur complémentaire, ça va interpeller un peu les peintres, les artistes peintres. Donc, avec le tableau des couleurs, les gens savent ce qu'est une couleur complémentaire, en principe. Et donc, par exemple, la couleur complémentaire du jaune, c'est le bleu, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc, ça veut dire que si un atome absorbe du bleu, on le voit jaune.
C'est ça.
Et pour voir gris, c'est un peu différent, parce que gris, c'est entre noir et blanc. L'argent qui est gris métallique.
En fait, l'argent absorbe dans les ultraviolets.
Ah.
Donc, on n'est plus dans le visible. C'est pour ça qu'on ne voit pas une couleur spécifique, mais on voit ce genre de lustre.
Et alors, ce que tu m'as dit donc, c'est que l'or devrait être gris aussi, mais il y a un phénomène de plus qui se produit, qui est un phénomène de relativité. Donc, il faut que tu expliques un petit peu ça.
Oui.
Et il faut en tenir compte, et c'est ce que tu as fait, c'est ce que vous avez fait, en tenant compte de cet effet de relativité dont tu vas nous parler. Là, maintenant, on comprend pourquoi l'or est jaune.
Alors, donc, la théorie de la relativité est associée au phénomène en grande vitesse. C'est la vitesse de la lumière qui dicte la présence ou non de ces effets relativistes, ou plus précisément, le rapport entre la vitesse d'un objet et la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est extrême, c'est 300 000 km par seconde, donc ça va très très vite. Et donc, il faut se demander qu'est-ce qui va vite dans un atome. Si on prend justement l'atome d'hydrogène, c'est tout petit. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effet relativiste. Mais quand on arrive à l'or, où la charge nucléaire est 79, on va avoir des effets relativistes. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un atome lourd, mais ce n'est pas la masse qui joue un rôle important. C'est la charge nucléaire, le fait que la charge nucléaire est très élevée. Et ces effets relativistes vont modifier l'extension spatiale et aussi l'énergie des orbitales. Et c'est ça qui va modifier justement le gap entre cette couche 5D et couche 6S dans l'atome d'or. Et on passe dans le visible et en absorption dans le bleu. Et donc, on voit cette couleur jaune.
Alors, si on peut résumer, les atomes sont colorés à cause du fait qu'ils absorbent certaines couleurs. Et on voit, ce qu'on voit, c'est la complémentaire. Si l'or est jaune, c'est parce que finalement, l'or absorbe dans le bleu. Et s'il n'y avait pas, si on ne tenait pas compte de ces effets de relativité, l'or absorberait dans l'ultraviolet et on le verrait gris.
Oui, Et il faut savoir que le sphère relativiste n'est pas quelque chose qu'on peut observer par expérience. Mais en tant que théoricien comme moi, on peut jouer avec la vitesse de lumière dans nos calculs. Et c'est ça qui permet de mettre en évidence que la couleur d'or est un effet relativiste. Si on fait un calcul non relativiste, on obtient la même couleur que l'argent.
Et alors, il y a les autres éléments autour de l'or. On connaît l'or, et l'or, évidemment, est particulier pour les gens, mais c'est pareil.
Pour tous les éléments autour de l'or, les verres relativistes sont très élevés, très importants.
Et par exemple, le platine, qui est lui aussi plutôt gris, donc ça veut dire qu'il absorbe de l'ultraviolet.
Oui.
Mais il absorbe, même quand on fait les calculs relativistes, on est toujours dans l'ultraviolet et le platine est toujours gris.
Oui, c'est
ça. Donc il n'y a que l'or pour lequel ça fait changer la couleur de façon si spectaculaire.
Oui, c'est ça.
Peut-être d'autres éléments, mais autour de l'or, l'argent, le platine.
À mes connaissances, il n'y a que l'or où on a qu'on passe vraiment dans l'ultraviolet et dans le visible à cause de ces verres relativistes.
Eh bien, voilà encore quelque chose de particulier pour l'or. Hein. L'or a tellement déjà d'effets particuliers par rapport aux gens, à la société. Alors voilà maintenant que c'est le seul qui montre que la couleur change par des effets relativistes. Mmh. Heureusement, parce qu'on est content que l'or soit jaune quand même, jaune brillant comme il est, jaune d'or.
Voilà.
Voilà, ben merci beaucoup, Trond, pour toutes ces explications. Et je pense que c'est encore une fois une question que les gens ne se posaient pas trop, mais qui vont être très contents d'essayer de comprendre. Merci beaucoup à toi.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.